Chaque été, il retourne dans son pays natal où la mer, le soleil, la joie de vivre, la danse, tout est pour lui source d'inspiration. D'ailleurs, l'Espagne est toute proche et bien des œuvres s'en ressentent, comme cette rhapsodie espagnole que vous venez d'entendre, mais aussi comme le boléro ou Alborada del Gracioso. Mais ce n'est pas lorsqu'il traite de l'Espagne que Ravel étonne le plus. Au contraire, le même public qui était ravi de ses œuvres d'inspiration folklorique va être scandalisé par ses œuvres dites « françaises ». Celles où il reprend la tradition de ses maîtres, Fauré, Debussy, Chabrier, en l'adaptant à sa manière, en y ajoutant un peu de son originalité et de son humour. C'est ainsi que l'écrivain français Jules Renard raconte comment il reçut un jour la visite d'un jeune homme dont on remarquait la petite taille et l'élégance un peu voyante.
Monsieur Renard, j'adore les animaux et je viens de lire vos histoires naturelles. Voilà, je m'appelle Maurice Ravel. Je suis compositeur. Et je voudrais mettre vos poèmes en musique.
Mais monsieur, mes histoires naturelles sont déjà de la musique. Une musique des mots, bien plus belle que toutes les musiques faites avec des notes. Elles n'ont pas besoin d'un autre père. Que voudriez-vous leur ajouter?
Malgré cet accueil un peu froid, Ravel composa quand même les mélodies que nous connaissons aujourd'hui. Et comme on peut s'y attendre, le public de l'époque, habitué aux mélodies traditionnelles de Massenet et de Fauré, n'apprécia guère le style original de Ravel. Cette façon nouvelle de déclamer les textes, comme on le ferait dans un français de tous les jours, cela, les gens n'étaient pas prêts à l'accepter. C'était pour eux tuer la tradition, alors que Ravel voulait au contraire fonder une tradition. Pour tout dire, on assiste même une fois de plus à un beau scandale. Écoutez pourtant l'histoire de ce malheureux Pan qui attend sa fiancée le jour du mariage et jugez vous-même si cela valait la peine de déranger Monsieur Renard.
Il va sûrement se marier aujourd'hui. Ce devait être pour hier. En habit de gala, il était prêt. Il n'attendait que sa fiancée. Elle n'est pas venue. Elle ne peut tarder. Glorieux, il se promène avec une allure de prince indien. Il porte sur lui les riches présents d'usage.
Peu de temps après, la musique de Ravel étonne à nouveau. Pour Mimi et Jean, les jeunes enfants de ses amis Godebski, il compose une série de pièces à quatre mains devenues aujourd'hui célèbres, « Ma mère loi ». Ne vous est-il jamais arrivé, en passant près d'un piano, d'entendre ces morceaux un peu écorchés par quatre mains encore malhabiles? C'est que Ravel, resté toute sa vie complice des enfants, voulait prouver que pour eux aussi, on peut écrire de la vraie musique. Et vous pouvez imaginer quelle fut sa joie ce 20 avril 1910 lorsqu'il vit le public parisien de la salle Pleyel applaudir à tout rompre les deux enfants de 6 et 10 ans, tout intimidés, qui s'apprêtaient à jouer pour la première fois « Ma mère loi ». Les plus fidèles admirateurs de Ravel en cette période de succès sont encore les amis de toujours, ceux qui, pour s'amuser, s'étaient appelés eux-mêmes les Apaches. Souvent, le soir ou même tard dans la nuit, ce petit groupe se réunissait pour écouter la dernière œuvre de Maurice ou celle d'un autre Apache. Ils en discutaient, ils comparaient leurs idées et ils se préparaient à les défendre devant un public jugé un peu trop tiède. Bien sûr, Ricardo Vignès en fait partie, et c'est à lui que Ravel confie bien souvent la tâche de créer les œuvres qu'il écrit pour le piano. Ce n'est pas toujours chose facile, surtout lorsqu'il s'agit d'une partition comme Gaspard de la nuit, où seul un pianiste virtuose peut surmonter les embûches tendues par le mauvais génie de Scarbo. S'inspirant encore une fois de la littérature, Ravel met en musique les poèmes d'Aloysius Bertrand, d'où surgit, comme d'un cauchemar, un nain difforme dénommé Scarbo, qui apparaît et disparaît en riant, se jouant du malheureux dormeur terrorisé dans son sommeil. Dans cette œuvre, Ravel utilise tout le savoir et la maîtrise qu'il a de son ancien instrument. Et s'il n'est pas devenu virtuose du piano, comme le voulait son professeur, il est bien désormais un grand virtuose de la composition pour piano.